Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Chapelle évangélique sur la rue Denison. Alors, si vous voulez l'entendre prêcher, il va être là ce soir. Et puis, il est de passage avec nous pour recevoir. Et puis, on est content de l'avoir ici. Et on veut lui souhaiter le bienvenue et lui donner quelques moments juste pour nous partager un petit peu qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans son pays.
En son nom,
dans le nom de votre Père. Et voilà la partie fun. Hein?
Buenos días.
Bonjour tout le monde.
Dios le bendiga a todos.
Que Dieu vous bénisse vous tous.
Le traigo saludo de Cuba.
Je vous rendre un salut chaleureux de Cuba.
De la iglesia que pastoreamos.
De notre église.
A 4,5 km de la playa Guardalavaca.
Qui se trouve juste à 4,5 km de notre plage.
Magnifique. Un lugar muy bello y precioso.
Un très beau endroit pittoresque et très merveilleux.
Le traigo saludo de la 20 iglesia que atendemos.
Je vous rends un bon salut chaleureux de toutes les 20 églises que nous occupons.
Hace 10 años.
Ça fait 10 ans.
El Señor nos ha dado la bendición.
Ça fait 10 ans que le Seigneur nous a donné cette bénédiction.
De poder atender un presbiterio.
De pouvoir nous occuper d'un presbytère.
Y tenemos 20 iglesias.
Et nous avons 20 églises.
Quiero dar gracias a Dios.
J'aimerais rendre grâce à Dieu.
Por haberme permitido estar con ustedes en esta mañana.
Pour m'avoir permis de me retrouver ce matin ici avec vous.
Gracias por sus pastores.
Merci aux pasteurs.
Son preciosos.
Ils sont des gens merveilleux.
Gracias por el hermano Juan y su esposa.
Merci à notre frère Jean et son épouse.
Es el motivo por qui estamos aquí hoy.
Et ça, c'est le vrai motif pour lequel nous nous trouvons ce matin ici.
Porque ellos estuvieron allá en el mes de febrero.
Parce qu'ils ont été là-bas au mois de février dernier.
Y nos gozamos juntos.
Et nous sommes réjouis ensemble.
Fue de mucha bendición.
Ça a été un moment de beaucoup de bénédictions.
Y quiero agradecerle a Dios.
Et j'aimerais remercier à Dieu.
Y públicamente.
Et publiquement.
Una maravillosa ofrenda.
Une merveilleuse offrande.
Que el hermano Juan y su esposa.
Que le frère Jean et son épouse.
Donaron a la iglesia.
Ont donné à notre église.
Para un camión que teníamos.
Pour un camion que nous avions besoin.
Que llevaba dos años roto.
Que ça fait plus que deux ans qu'il était brisé.
Y estábamos bien endeudados.
Et nous étions très endettés.
Pero esa mañana.
Mais ce matin-là.
Yo estaba dando un estudio.
J'étais en train de donner une conférence.
Acerca del diezmo.
À propos de la dîme.
Dios tocó al hermano Juan y su esposa.
Mais Dieu a mis sa main sur notre frère Jean et son épouse.
Y ellos donaron un poquito más de $2,000.
Et ils ont fait un don incroyablement surpris au-delà de $2,000.
Para pagar el camión.
Pour nous payer les dettes et le camion.
Gracias a Dios.
Merci Seigneur.
Y a estos hermanos.
Et merci à nos frères.
Y a ustedes también.
Et à vous tous aussi.
Estamos orando por la iglesia de Canadá.
Nous sommes en train de prier pour toutes les églises du Canada.
Para que haya un avivamiento en Canadá.
Pour qu'il puisse y en avoir un réveillement au Canada.
En Cuba.
À Cuba.
Hemos pasado momentos difíciles en la historia.
Et nous avons aussi, malgré tout ça, passé des moments très difficiles dans notre histoire.
En la década del 60.
Depuis les années 60.
La iglesia era pequeña.
L'église était très petite.
Tuvimos que sufrir mucho.
Nous avons dû vivre des périodes difficiles.
Pero un pequeño remanente.
Mais nous avons été récompensés.
Permanecimos fiel a Dios.
Et nous avons toujours gardé notre fermeté et notre dévouement en Dieu.
Y en la década del 90,
et dans les années 90,
cuando la situación económica del país,
quand notre situation économique
estaba fuerte,
était plus forte,
la iglesia,
l'Église,
aprendió a vivir por fe,
a appris à vivre par la foi,
y a mirar a Jesús,
et à regarder Jésus.
Y hubo un gran avivamiento sobre toda la isla de Cuba.
Sur toute l'île de Cuba.
En la década del 80,
également dans les années 80,
solamente habían como 90 iglesias pentecostales.
Il y en avait juste 90 églises pentecostales.
Y hoy,
et aujourd'hui,
tenemos más de 1,000.
Et nous avons plus que 1,000 églises.
Porque hubo un gran avivamiento.
Parce qu'il y en a eu un grand réveillement.
El Espíritu de Dios.
L'Esprit de Dieu.
Se mueve.
Se mueve parmi nous. Elle est présent parmi nous.
Y hoy podemos predicar el Evangelio.
Et aujourd'hui nous pouvons prêcher
l'Évangile. A toda persona.
À tous ceux-là.
Con libertad.
Avec liberté.
Nadie nos lo impide.
Et personne ne nous empêche.
Le podemos hablar a la policía.
nous pouvons parler au monde, au gouvernement,
y a toda persona,
et à tout celui-là qui
le podemos hablar de Jesucristo.
Nous pouvons parler de Jésus-Christ ouvertement à tout le monde.
Mucha persona,
beaucoup de gens,
tienen temor viajar a Cuba,
y ont peur d'aller à Cuba.
Porque aquí se le dice otra cosa.
Parce qu'ici, les gens, ils pensent que c'est différent.
Pero en Cuba hay libertad para predicar la palabra de Dios.
Nous avons la liberté de prêcher la parole de Dieu.
Y usted puede andar por cualquier lugar.
Et vous pouvez être n'importe où.
Y no tiene ningún peligro.
Et vous ne courez aucun danger.
Usted es bienvenido a Cuba.
Vous êtes tous les bienvenus à Cuba.
Damos gracias a Dios.
Nous rendons grâce à Dieu.
Porque el año pasado,
parce que l'année passée,
el 7 de septiembre,
le 7 septembre,
fuimos visitados por un fuerte huracán.
Nous avons été visités par un très gros ouragan.
Entró por la zona donde vivimos, por Vannes.
Il est rentré dans l'endroit où nous vivons.
Fue terrible lo que hizo este huracán.
A été terrible,
fue una noche de agonía.
Ça a été une soirée d'agonie.
Nunca antes habíamos experimentado.
Nous n'avons jamais vécu quelque chose de semblable auparavant.
Una prueba de esta magnitud.
Ça a été vraiment une épreuve de cette magnitude.
Arrasando con todo.
Que tout a été détruit et anéanti.
La casa.
La maison.
Lo sembrado.
Le récolte.
Todo.
Tout.
Todo fue destruido.
Tout a été ravagé.
Pero Dios.
Mais Dieu.
Cuidó de nosotros.
Nous a gardé dans sa foi.
Y en medio de esa batalla.
Et au milieu de cette lutte.
La iglesia.
L'église.
Continúa hacia adelante.
Continue toujours
creciendo,
devant.
Creciendo. Fortaleciéndose.
En se fortifiant.
Y buscando a Dios.
Et en cherchant Dieu.
Muchas personas perdieron sus hogares.
Beaucoup de gens ont perdu tout.
Y poco a poco.
Mais tranquillement.
Nos hemos ido recuperando.
Nous nous sommes remis.
Estamos reconstruyendo los templos.
Nous sommes en train de reconstruire nos
y algunas casas se están reconstruyendo también.
Toutes les maisons aussi.
Pienso que nos hemos recuperado.
Nous pensons que nous sommes remis quasiment
complètement. Como un 50%.
À peu près un 50%.
Pero Dios.
Mais Dieu.
No se ha olvidado de nosotros.
Il nous a jamais oublié.
Ahora estamos reconstruyendo un templo más grande.
Nous sommes en train de bâtir un temple
y
plus
más
grand,
bonito.
Et plus beau.
Lo cual no entendíamos anteriormente.
Ce que nous ne comprenions pas auparavant.
Pero la gloria es para Dios.
Mais c'est tout pour la gloire de Dieu.
Muchas personas,
beaucoup de gens,
han venido a los pies de Jesús.
Beaucoup de gens, ils se sont retrouvés devant Jésus.
Y la iglesia está creciendo, hermano.
L'église continue de grandir.
Hay un deseo ferviente.
Il y a un grand désir
en el corazón de la persona.
Dans le cœur de chaque
humain. De buscar a Dios.
De chercher Dieu.
Y es maravilloso.
Et c'est merveilleux.
Cómo la gracia de Dios
se manifiesta
en nuestra vida. Hemos aprendido a vivir por fe en los momentos más difíciles de la vida. Por eso quiero decirle a usted en esta mañana
que es muy importante
que a veces experimentemos pruebas.
Que des fois c'est préférable vivre
porque
des
la Biblia dice
parce que la Bible nous dit
que es necesario
que il est nécessaire
que a través de muchas tribulaciones
que au milieu de beaucoup de tribulations
entremos al reino de Dios.
Nous pouvons rentrer dans le royaume de Dieu.
Pero yo quiero darte una buena noticia en esta mañana.
Mais je veux vous donner une très belle nouvelle ce
dice
matin.
La Biblia,
la Bible nous dit
que Dios ha prometido
que Dieu nous a promis
estar con nosotros
être avec nous
en todos los aspectos de nuestra vida.
Dans tous les aspects de notre vie.
Cuando no tenemos nada,
quand nous n'avions rien,
cuando tenemos abundancia,
quand nous serions tout
cuando estamos enfermos,
quand nous sommes malades,
cuando estamos tristes,
quand nous sommes tristes,
cuando fallamos,
quand nous les sommes tombés,
Dios no nos desampara.
Dieu est toujours pour nous soutenir.
Él está dispuesto
il est toujours prêt
para levantarnos,
pour nous lever,
para cuidarnos,
pour nous garder,
para fortalecernos,
pour nous fort,
para ayudarnos.
Pour nous fortifier, pour nous aider.
Dice la Biblia,
la Bible nous dit,
que Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Que Dieu est le seul pasteur et que nous ne manquerons jamais de rien.
Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte,
et même si nous marchons dans la vallée,
Él está con nosotros.
Il est toujours avec nous.
Tenemos el ejemplo del hombre.
Nous avons l'exemple de l'homme.
En el capítulo 8 de Mateo.
Dans le chapitre 8 de Matthieu.
Aquel oficial llamado Jairo.
L'officier appelé Jaime.
Tenía su criado gravemente para morir.
Il avait un homme de ménage qui était malade.
Y él fue donde estaba Jesús.
Il est allé où il était Jésus.
Y le dijo al Señor.
Il lui a dit.
Señor.
Seigneur.
Haz algo.
Fais quelque chose.
Por mi criado.
Pour mon servant.
Pero yo no soy digno.
Mais je ne suis pas
de
digne.
Que tú entres.
De que tu rentres.
A mi casa.
Chez moi.
Di la palabra.
Prononce ta parole, Seigneur.
Y mi mozo sanará.
Et mon servant, il sera guéri.
Esto es una expresión grande en esta mañana.
Ça, c'est une expression très grande.
Lo que dijo este hombre.
Ce que cet homme a dit là.
El Señor Jesús.
Le Seigneur Jésus.
Se estremeció.
a été ébranlé.
Su corazón fue tocado.
Son cœur a été touché.
Por esta expresión de fe.
Pour cette expression de foi.
Y nosotros también.
Et nous aussi.
Podemos tocar el corazón de Dios.
Et nous pouvons aussi toucher le cœur de Dieu.
Cuando tenemos confianza en él.
Quand nous avons confiance en lui.
Nada importa cuál sea la situación.
Peu importe quelle situation.
El Señor nos va a escuchar.
Dieu va nous écouter.
Y él va a obrar en nuestra vida.
Y él va a œuvrer dans nos vies.
Que Dios te bendiga.
Que Dieu vous bénisse. Vamos a orar por la fe.
On va prier pour vous. Je vais me mettre ici. Est-ce qu'on peut étendre nos mains vers eux? Amen. On va prier. On va les bénir. Merci, Seigneur Dieu.
Gracias, Señor Jesús.
Pour la présence de notre frère et notre sœur ici aujourd'hui.
Por tu presencia esta mañana aquí con nosotros.
On veut te remercier, Seigneur, pour leur fidélité.
Queremos agradecerte por la fidelidad.
Malgré les épreuves.
A pesar los malos momentos.
Merci, Seigneur, parce que tu es toujours fidèle pour eux.
Gracias, Señor, porque tú siempre eres fidel a nosotros.
Seigneur, on les bénit.
Señor, te bendecimos.
On te remercie de les avoir envoyés ici.
Te agradecemos, Señor, de los haber enviado aquí con nosotros.
Et on prie, Seigneur, que tu puisses te révéler à eux.
Te rogamos, Señor, que tú puedas manifestarte a ustedes.
D'une façon fraîche.
De una manera fresca.
Que ta bonté puisse être révélée, Seigneur.
Que tu bondad pueda revelarse a ustedes, Señor.
Encore plus dans leur vie.
Y todavía más en cada momento de nuestra vida.
Dans leur famille et leur ministère.
En la familia y en el ministerio, Señor.
Amen.
Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse.
Dios le bendiga.
Que Dieu vous bénisse.
Están invitados a visitarnos a Cuba.
Vous êtes tous invités à nous visiter à Cuba.
Gloire à Dieu. C'est merveilleux d'avoir des invités de Cuba avec nous ce matin. Amen. Alors ce matin, le thème de l'enseignement, je vais le garder un petit peu pour plus tard. Je vais vous donner quelques informations concernant l'actualité. Et le fait d'avoir notre frère et notre sœur ici avec nous aujourd'hui va justement avec le message de ce matin. Ce matin, j'avais à cœur de vous partager un petit peu qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et puis le Seigneur nous a envoyé un couple de Cuba pour nous partager justement leur vécu dans leur pays. Comme quoi, c'est pas toujours facile d'être un croyant. Comment des fois il y a des obstacles, comme quoi il y a des fois des épreuves et tout ça. Et puis ce matin, j'aimerais ça attirer votre attention sur des choses qui se passent en actualité dans le monde chrétien. Et ça va nous donner des choses pour prier, nous inspirer à la prière. Mais avant d'aller plus loin, on va juste pencher nos têtes et on va prier ce matin. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta présence parmi nous. On veut te remercier, Seigneur, pour ta parole. Et on veut te remercier également, Seigneur, pour ta grâce. Ta grâce qui est toujours là. Et ce matin, je te prie que tu nous accordes un esprit de révélation, Seigneur Dieu. Que tu ouvres nos cœurs, Seigneur, et qu'on puisse voir ce que tu vois. Qu'on puisse entendre, Seigneur, ce que toi, tu veux qu'on entende. On a prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors ce matin, comme je viens de dire, je vais vous montrer quelque chose qui se passe dans le monde chrétien. Et je vais vous lire un texte ici. Ça dit « Lors du service commémoratif de l'écrasement de Swissair vol 111 en septembre 1998 en Nouvelle-Écosse, deux représentants du premier ministre canadien, Jean Chrétien, ont défendu aux pasteurs chrétiens de mentionner Jésus, la Bible ou la croix lors de leur discours. » Les musulmans, cependant, n'avaient aucune restriction dans leurs propos. De plus, ils étaient tout à fait libres de citer le Coran à leur guise. Je voulais vous partager quelque chose comme ça, et ça, c'est en 98. Je peux vous dire, il y a tellement de choses où on voit la discrimination religieuse dans notre pays, et on pourrait en parler des plus récentes, mais je trouvais que vraiment celle-là, c'est un exemple vraiment exemplaire, comment dans notre propre pays, un pays qui a été fondé sur le christianisme, et même le verset psaume 72, verset 8, est écrit sur la colline parlementaire, sur le bâtiment là-bas. On sait que c'est un pays qui a été fondé par des croyants, et c'est rendu que ce n'est plus politically correct de parler de Jésus-Christ lors d'un service commémoratif. Et je trouve que c'est anormal qu'on vive ça dans notre pays. Mais je vais vous montrer d'autres choses qui se passent un petit peu ailleurs, pour qu'on puisse comprendre le climat spirituel, qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays. Si vous voyez M. Omar Khalaf, un frère de 69 ans en Somalie, époux et père de 7 enfants, a été assassiné par des musulmans le 15 septembre 2009. Donc, ça fait pas longtemps de ça, là. Il a été trouvé avec 25 bibles, il a servi le Seigneur 45 ans. Ce frère-là, je peux vous dire, il se promenait pendant 45 ans, il se promenait en Somalie et puis il évangélisait avec des Bibles. Et puis, il y avait des gens, des musulmans qui ont arrêté l'autobus dans lequel il se trouvait et puis ont trouvé 25 Bibles et puis finalement, ils ont su que c'était à lui et puis ils l'ont tué. Ils l'ont tiré et puis ce papa, ce mari et cet homme de Dieu a été assassiné parce qu'il aimait Jésus et parce qu'il aimait assez le Seigneur qui était prêt à distribuer la parole de Dieu. Je veux vous montrer des exemples comme ça, qu'on puisse comprendre que vivre la vie chrétienne au Canada, c'est très simple et c'est très facile. Même s'il y a une certaine discrimination, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays du monde? On voit que c'est une autre réalité. Et ça peut des fois nous réveiller à voir, wow, ma vie chrétienne au Canada, au Québec, là, c'est pas si difficile, même si parfois faut se motiver. Ici, on voit pasteur Hua Yikui saisi par les autorités chinoises à Beijing le 17 septembre 2009. Donc, le 17 septembre, ça fait pas longtemps de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme de Dieu faisait de l'évangélisation et il a été battu à plusieurs reprises dans le passé. Et puis récemment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les autorités sont venues le voir puis ont dit « t'as pas le droit de faire qu'est-ce que tu fais dans notre pays, c'est contre la loi. Et tes bureaux, tout ça, tu vas devoir les fermer. » Alors ce monsieur-là, il était pour obéir la loi. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais il dit, j'ai payé un bail ici pour mon local et puis j'aimerais ça être remboursé au moins. Alors, les autorités du gouvernement, ils ont dit, parfait, oui, tu vas nous rencontrer tel temps et puis on va vous rembourser, on va s'organiser que tu sois remboursé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au lieu de se faire rembourser, il s'est fait saisir et kidnapper. Et je crois qu'il y avait un cellulaire, il a pu appeler son épouse et lui dire « je m'en vais, je ne sais pas où, je ne sais pas où c'est qui m'emmène ». Et puis c'était la dernière fois que son épouse a entendu parler de lui. Et puis elle a écrit une lettre au site web Voice of the Martyrs. Et elle demandait qu'on prie pour son sort parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais ça, c'est une réalité. C'est un homme de Dieu qui a beaucoup d'églises sous sa charge. Et les Chinois, et on sait en réalité, ce n'est pas les musulmans, ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas des groupes de personnes qui sont le problème. C'est l'esprit derrière ces choses-là. Et il faut prier pour le pays, pour les pays communistes. Il faut prier également pour les musulmans. Il faut aimer ces gens-là. Qu'est-ce que je suis en train de vous partager ici? C'est juste pour vous susciter, en tout cas, l'intérêt et également comprendre qu'ailleurs dans le monde, c'est pas toujours facile. Et même aux États-Unis, vous allez dire, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Ici, je vais vous lire Frank Lay, directeur de l'école secondaire Pace en Floride, et Robert Friedman, directeur du département de l'éducation athlétique, ont été poursuivis au criminel pour l'offense d'avoir béni un repas à l'école. Quelle offense! Et en passant, c'était la bénédiction d'un repas en dehors des temps d'école. C'était une rencontre, je crois, entre parents. Donc, c'était une rencontre parascolaire en dehors des heures de l'école. Et pourtant, il a été poursuivi. Et une des choses qui était pour possiblement se passer, c'est qu'il était pour perdre son fonds de retraite. Ça faisait 40 ans qu'il travaillait comme directeur de l'école. Il était pour perdre son fonds de retraite, passer, aller en cours et se faire emprisonner parce qu'il avait prié et béni un repas à l'école. Ça se passe aux États-Unis. Et le 19 septembre, il a passé en cours et ça l'a même passé au Sénat des États-Unis. Et finalement, ils ont dit, OK, on va te laisser faire cette fois-ci. Parce qu'on ne pense pas que c'était avec une intention criminelle que tu as prié. Mais les prochaines fois, tu n'auras pas le droit de prier comme ça. C'est hors la loi. Dans le monde dans lequel on vit, on se dit qu'on est libre de célébrer le Seigneur, on est libre. Et on a encore une liberté au Canada, heureusement. On peut se rassembler ici pour le louer, le célébrer, puis apprendre la parole de Dieu. Mais si on ne se réveille pas, on va réaliser qu'il y a des droits et des choses qu'on prend pour acquis, qu'on peut perdre. Alors, qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? C'est être réveillé et qu'on prie que le Seigneur protège nos droits dans notre pays. Et il ne faut pas être indifférent ou être endormi et penser que qu'est-ce qu'on a comme droit, qu'on va toujours l'avoir. Il faut être réveillé là-dedans. Et ce matin, je peux vous dire que le message que le Seigneur m'a donné pour vous, c'est un message que j'ai eu dans la nuit, le mardi de cette semaine. Pendant que je dormais, j'ai eu un rêve de la part de Dieu. Et dans mon rêve, j'écrivais toutes les notes de ce message. Et quand je me suis réveillé à 6 heures le matin, j'ai réalisé que je n'avais rien écrit. J'ai dit, oh non, faut tout que je recommence. Mais c'est un message, je sais que le Seigneur veut qu'on prenne à cœur ce matin. Alors, je vous invite à tourner dans la parole de Dieu. On va regarder ensemble ce que le Seigneur m'a mis à cœur concernant justement qu'est-ce qu'on vit, concernant le climat spirituel et l'appel à devenir des passionnés de Jésus. Quand on pense à d'autres pays, comment ils vivent, comment ils ont de la difficulté, et même dans notre pays, on a des difficultés qui sont pas aussi graves, on se fait pas tirer dessus parce qu'on croit en Jésus. Cependant, on peut se faire actionner si on lit certains passages de la parole de Dieu maintenant au Canada. Mais faut devenir passionné de Jésus-Christ encore une fois, où on est prêt à tout pour obéir au Seigneur. Amen. Et en même temps, on peut vérifier notre niveau d'engagement. Et voir, est-ce que je suis un soldat actif dans l'armée de Dieu ou est-ce que je suis un vétéran? Est-ce que tout ce que Dieu m'appelle à faire, je suis assis et puis je ne suis pas engagé dans ma destinée et dans mon service pour le Seigneur? Alors ce matin, le titre du message, c'est « L'aimez-vous? » Et c'est le message que le Seigneur me demandait de vous donner ce matin. L'aimez-vous? Est-ce que c'est quelque chose du passé, votre relation avec Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui vient vous chercher encore? Est-ce que vous êtes encore passionné pour Jésus-Christ? Et ma prière pour vous ce matin, c'est qu'on puisse être passionné. Parce que vous savez, dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a créé ces personnes-là parce que de un, il voulait aimer l'humanité. Vous savez, Dieu est amour et ce Dieu d'amour voulait aimer des créatures. Alors, il a créé les êtres humains et il a toujours désiré que l'être humain choisisse d'aimer Dieu. Il a toujours aimé, puis c'est ça qu'il voulait depuis le début, c'est que les êtres humains puissent choisir d'aimer le Père céleste. Et on sait que le cœur du Père pour ses enfants, c'est de prendre soin de ses enfants. On regarde dans le jardin d'Éden, on voit Adam et Ève, il n'y avait pas le bien-être social dans le jardin d'Éden. Dieu prenait soin de ses enfants, il n'y avait rien de manquant, rien de brisé. La maladie n'existait pas dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? On sait, c'est comme ça que Dieu est. Dieu aime ses enfants et puis il s'est occupé de la nourriture. Quand ses enfants avaient faim, il y avait simplement de prendre un fruit d'un arbre et se rassasier. Dieu, c'est un bon Dieu, il veut prendre soin de ses enfants. Mais autant on peut parler comment Dieu nous aime, il y a un moment également dans nos vies chrétiennes où on doit réaliser, est-ce que moi j'aime Dieu? C'est une question, on prend ça pour acquis, Dieu m'aime, Dieu m'a aimé le premier. Et on aime ça, savoir que Dieu nous aime et se réjouir dans cet amour. Et il y a malheureusement plein de personnes qui connaissent pas, qui n'ont pas la révélation de l'amour du Père comme ils devraient avoir. Et c'est une chose qu'on doit vraiment avoir et se réjouir de ça. Mais l'autre affaire qu'on doit vraiment savoir, c'est est-ce que moi, j'aime véritablement Dieu? Est-ce que Jésus est vraiment le Seigneur de ma vie? Ou est-ce que je suis un chrétien religieux? Est-ce que je vis la vie chrétienne comme la majorité des chrétiens évangéliques au Québec? Ou est-ce que quelque chose en dedans de moi qui vient me chercher? Puis est-ce que vraiment ma vie appartient vraiment à Dieu? C'est une question que le Seigneur vous pose ce matin. Alors, dans 1 Jean, chapitre 4, verset 16, il est écrit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Alors, gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu pour la réalité, la révélation de l'amour de Dieu. Il nous a aimés en premier, sans qu'on fasse quoi que ce soit. On n'a jamais rien fait pour mériter l'amour de Dieu. On n'a rien fait où Dieu a dit, « Wow, là, tu performes assez bien que maintenant, tu mérites mon amour. » C'était jamais une question de performance, ou même parce que ça venait de nous, c'est vraiment le cœur de Dieu envers ses enfants, envers ses créatures qui nous donne cette révélation-là de l'amour. Donc ça, c'est notre intérêt habituel. Mais la question maintenant, l'aimez-vous? Dans Luc, chapitre 14, et versets 25 à 27, si on lit ensemble, ça dit, « De grandes foules faisaient route avec Jésus, et se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Mais quand on lit ça, ce texte-là, on se dit, mais qu'est-ce que Dieu veut dire? Qu'est-ce que Jésus veut dire là-dedans quand il dit si on n'haït pas notre propre famille ici, ou même sa vie, il ne peut être mon disciple? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut vraiment dire qu'on va haïr nos parents et notre famille, tout ça? Certainement pas. Dieu ne nous appelle pas à haïr les gens. Mais c'est dans le sens, dans le contexte qu'on doit aimer premièrement Jésus. Que Jésus passe toujours au numéro un, même avant notre propre vie, avant nos propres intérêts, avant même nos goûts. C'est une chose, ça. Dieu nous appelle à s'examiner ce matin et voir est-ce que mon amour pour Dieu est authentique ou est-ce que je vis une vie chrétienne religieuse. Et savez-vous, moi, je crois que le Seigneur veut répandre sa gloire parmi nous. Le mois d'octobre qu'on va vivre ensemble, moi, je m'attends qu'il va y avoir des guérisons. Je m'attends de voir des grandes choses de la part de Dieu. Mais comme toujours, avant de vivre la gloire de Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire en dedans de nous, c'est qu'on puisse réaliser des choses et voir est-ce que je suis positionné dans l'amour de Christ envers mes frères et mes sœurs, certainement, mais même envers Dieu lui-même. Est-ce que j'aime Dieu pour qu'est-ce qu'il veut me donner ou est-ce que j'aime Dieu pour qui il est? Si j'aime Dieu pour qui il est, pas pour les choses qu'il veut me donner, pas pour les bénédictions, mais simplement parce que Dieu est mon Créateur et à cause de cet amour, là, mon cœur va être bien disposé et le Seigneur va pouvoir se servir de moi. Mais c'est tellement important. Vous savez, il y a des gens qui vont prêcher l'Évangile et en prêchant l'Évangile, c'est jamais vraiment pour bénir Dieu, c'est juste pour susciter chez les gens l'excitation. On pourrait vous prêcher quelque chose juste pour vous exciter ce matin. Mais moi, je veux vous interpeller. Je veux que l'Esprit de Dieu vous interpelle à une plus grande communion avec Dieu, à plus d'amour pour Dieu, que votre vie soit entièrement à Dieu. Et savez-vous, si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces autres choses vont être ajoutées. Dieu va vous combler avec tout ce que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de chercher à droite et à gauche pour la provision de Dieu. Si vous cherchez Dieu et vous êtes dans cette place secrète avec lui, le Seigneur va vous donner la provision. Dieu va vous donner la guérison. Dieu va vous donner tout les bienfaits. Dieu ne veut rien retenir de ses enfants. Certainement pas. C'est la religion et le diable qui veut prêcher un évangile comme quoi Dieu veut vous enlever. Dieu ne veut pas vous enlever, Dieu veut vous donner. Mais en même temps, Dieu aussi veut recevoir de vous. Il veut recevoir votre amour. C'est simple, il demande juste ça. Dieu est amour et Dieu recherche l'amour d'un peuple, un peuple qui l'aime vraiment, un peuple qui l'adore vraiment en esprit et en vérité. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et savez-vous, quand on arrive à cette place où on aime vraiment Dieu avant nos intérêts, avant nos goûts, on aime Dieu premièrement, waouh, c'est merveilleux. Les cieux vont s'ouvrir sur nous, la bénédiction va être illimitée. Parce qu'on va être dans cette place de l'amour. Et quand on va arriver à l'église ici et on va commencer à louer le Seigneur, tout de suite, les cœurs vont s'élever vers une louange, vers le Seigneur. Dieu va descendre sur nous d'une façon fraîche et nouvelle. Ça ne sera pas 10, 15, 20 minutes avant de se réveiller ou de se réchauffer, mais tout de suite, les cieux vont être ouverts sur nous. À cause, le cœur de Dieu va être pour nous. Il est déjà pour nous, mais là, il va voir que notre cœur est pour lui également. C'est tellement important. Matthieu 10, 37, 39, ça dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Si on parle de dignité, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Vous savez, il n'y a rien de pire que de rencontrer un chrétien ou une personne qui se dit chrétienne, mais qui ne porte pas sa croix, qui ne marche pas selon la parole de Dieu et qui annonce aux gens, « Oui, moi, je suis croyant. Je suis croyant, mais finalement, il n'y a rien dans la vie de la personne qui démontre que cet enfant-là ou cette personne-là est vraiment un enfant de Dieu. Il n'y a rien de plus triste. Et savez-vous, il y a beaucoup de croyants dans notre ville à Granby qui ne viennent pas à l'église, qui ne sont pas dans des églises locales. Je crois qu'il y a autant de gens à l'extérieur de nos églises, des gens qui ne fréquentent plus des églises, ça fait des années, parce qu'ils ont été blessés à quelque part. Mais c'est triste, ça. C'est triste. Faut prier pour ces gens-là. Et ici, ça dit, celui qui aime son fils ou sa fille n'est pas digne de moi. Ici encore, on parle de dignité. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Des fois, quand on a peur de donner notre amour à Dieu véritablement et vraiment lui donner la seigneurie de notre vie, on est comme, Seigneur, je t'aime, mais j'ai mes réserves. J'ai peur de te faire entièrement confiance avec ma vie parce qu'autrefois, j'ai donné ma vie à quelqu'un peut-être. Peut-être c'était un homme ou une femme. Vous avez donné votre amour à quelqu'un et vous avez été déçu. Et quand ça se passe avec Dieu, on dit, Seigneur, je t'aime, mais avec mes réserves, on passe à côté ce que Dieu veut vraiment pour nos vies. Il faut aimer Dieu radicalement, avec tout notre cœur, toute notre force, toute notre âme. Amen. Et je peux vous dire, j'ai demandé cette semaine si je pouvais parler d'elle, Mélissa qui est dans notre église ici, j'ai dit, peux-tu partager qu'est-ce que tu m'as partagé? Elle dit oui. Mélissa était mariée avec un homme qui se disait croyant. Et après le mariage, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il ne voulait pas servir Dieu et il voulait l'empêcher de marcher avec Dieu. Et Mélissa, pendant ce temps-là, pourrait vous raconter ça en plus de détails, certainement. Mais Mélissa était devant un choix. Soit être avec son mari, OK, ou être avec Dieu. Elle ne pouvait pas avoir les deux, malheureusement. Il y a des maris qui ne servent pas Dieu, ils vont dire à leur femme, ou ça peut être l'inverse, ou au conjoint, conjointe, OK, toi, tu peux aller à l'église, moi, je n'y vais pas. Il y a quand même un respect là-dedans. Mais pour elle, elle n'avait pas le choix. C'est soit tu es avec moi ou tu es avec Dieu. Et Mélissa a choisi d'être avec Dieu. Et elle a perdu son mari parce qu'elle, elle voulait aller à l'église et il voulait l'empêcher d'aller à l'église. Est-ce que c'est ça que Dieu veut pour nous, perdre nos conjoints, conjoints? Certainement pas. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Mais le cœur de Dieu, premièrement, c'est qu'on aime Dieu. Et elle, elle paye aujourd'hui le plus grand prix pour être à l'église. Mélissa, son mari l'a quittée. C'est toute une chose, ça. Il y a des gens, par exemple, qui vont fréquenter des inconvertis, qui sont chrétiens, et puis ils ne vont même pas faire ce qu'elle a fait. Ils vont dire, ben là, je n'irai plus à l'église parce que là, je me suis trouvé une blonde, un chum. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'une personne décide de mettre des gens avant Dieu, ils passent à côté de leur destinée. Ils font des détours dans le plan parfait de Dieu pour leur vie. Certainement, Dieu peut sauver la personne qui n'est pas sauvée encore. Mais premièrement, Dieu nous demande de chercher quelqu'un qui a ses valeurs, qui a un cœur pour Dieu. Comment est-ce qu'on peut être unis et bâtir quand on n'est pas en accord? Dans Amos, ça en parle ici. Comment est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble à moins qu'ils soient en accord? Comment est-ce qu'un homme chrétien peut fréquenter une femme non chrétienne? Comment est-ce que c'est possible? Dieu nous appelle à être tellement en amour avec lui qu'on va aimer plus Dieu qu'une personne, qu'on ne laissera pas, on laissera pas notre relation avec Dieu pour une femme ou un homme. Comprenez-vous? C'est ça vraiment. Dieu se cherche un peuple qui l'aime vraiment. Vraiment. Qui sont prêts là, à tout abandonner. Il y en a qui vont abandonner leur maison. Vous savez, il y a des gens qui ont été persécutés dans d'autres pays, qui étaient riches dans leur pays. Ils ont dû quitter à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ils ont dû quitter leur maison, toute leur propriété. Ils étaient dans la richesse. J'en ai connu un, monsieur, comme ça, qui était prince dans son pays. Un prince dans son pays. Et puis, il a tout quitté, toute la richesse du monde pour servir Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là aujourd'hui, à la même place? Avez-vous ce désir de servir Jésus, coûte que coûte? La question qui demeure, êtes-vous enivré de cet amour? Ici, on voit une photo d'un couple. Et si je peux vous faire rappeler un moment peut-être où vous avez été en amour, peut-être il y en a certains d'entre vous, vous n'avez jamais été en amour, que Dieu vous bénisse, ça va venir. Mais vous savez, au début d'une fréquentation, quand on commence à sortir avec quelqu'un, bien, on aime la personne, on recherche la compagnie de la personne. Moi, quand j'ai commencé à fréquenter Mathilde, c'était pas comme, bon, faut que je l'appelle là, faudrait bien que je l'appelle. Ouais, peut-être on devrait se rencontrer, on devrait aller manger ensemble. Colin, une fois encore, je dépense de l'argent. Ah, je te dis, c'était pas du tout ça. Comment est-ce qu'on voit notre relation avec Dieu? Est-ce que c'est un privilège d'être dans la compagnie de Dieu ou est-ce que c'est une obligation? Quand vous étiez en amour, ou si vous êtes en amour, OK, avec votre conjoint, conjointe, époux, épouse, quand vous étiez en amour au début, là, est-ce que c'était une obligation pour vous? J'espère que non, parce que c'est pas ça l'amour. C'est pas ça vraiment être en amour. J'ai connu une personne qui vivait des difficultés au niveau de son couple. Elle pleurait toujours. Puis moi, j'ai dit, si c'est ça être en amour, je veux rien savoir. Parce qu'être en amour, ça devrait nous donner de la joie. On devrait être heureux d'être en amour, hein, être béni. Mais Dieu vous demande, êtes-vous enivré de cet amour? Dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 1, ça dit, ici, c'est un type de Christ envers l'Église. On sait que c'est Salomon qui parle à sa bien-aimée. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Dieu nous appelle à cette place où on est enivré de l'amour de Dieu, qu'on est vraiment passionné pour Dieu, comme on l'était au début d'une relation. Quand on aime vraiment Dieu, on va penser à Dieu constamment. Nos pensées vont être là. Quand vous pensez toujours à votre blonde ou à votre chum, vous pensez toujours à cette personne-là, vous êtes comme obsédé avec la personne. Peut-être que vous l'avez vécu, être comme obsédé. Vous devriez être pareil avec Dieu. Pensez toujours à Dieu. Comment est-ce que je peux être plus proche de Dieu? Comment est-ce que je peux être dans sa compagnie? Est-ce qu'on peut faire de quoi ensemble? Est-ce que je peux prendre un rendez-vous de plus avec Dieu? Est-ce que je peux être plus dans sa présence, prier, chercher sa face par l'étude de la parole de Dieu, prier avec mes soeurs, mes frères. Ça, c'est qu'est-ce qui est normal pour quelqu'un qui est en amour. C'est ça qui est normal. Si c'est comment est-ce que je peux faire le moins pour être avec Dieu, ça, c'est un problème. On a un problème de cœur à quelque part. On n'est pas vraiment en amour. Mais si on est en amour, on va rechercher sa présence. Voici quelques signes de l'amour, si vous êtes en amour avec Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, verset 8, il est écrit, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans l'avoir, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » Une joie ineffable et glorieuse. Quand on aime Dieu, on devrait être heureux. Grande révélation. Ceux qui aiment Dieu, ça devrait être les gens les plus heureux sur la terre. On ne devrait pas avoir l'air de bœuf quand on vous rencontre. C'est vrai. Quand on est en amour, on a de l'air de flotter, n'est-ce pas? Les gens, ils disent, « Wow, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? » Bien, j'ai rencontré une fille. Bien là, ça l'explique beaucoup de choses. Mais avec Dieu, c'est la même affaire. Avec Dieu, on devrait être sur un nuage parce qu'on est assis avec lui dans les lieux célestes. Amen. C'est vrai, on devrait être excité. Si votre vie manque d'enthousiasme et vous n'êtes pas excité d'être avec Dieu, peut-être vous n'êtes pas encore sauvé. Je vous le dis, si vous n'êtes pas excité d'être avec lui, peut-être vous n'avez pas encore rencontré Jésus. Vous n'avez juste entendu parler et Dieu vous appelle à cette place de rencontre pour vivre l'intimité avec lui. Je vais vous le dire clairement, là, très, très franchement, si vous n'êtes pas excité de marcher avec Jésus, peut-être vous n'êtes pas sauvé encore. Mais heureusement, vous êtes à la bonne place. Vous pouvez être sauvé ce matin, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, on va vous dire comment à la fin de cette réunion. Jean 14, verset 23, ça dit, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui. » Et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, quelqu'un qui aime vraiment Dieu va également aimer marcher dans la parole de Dieu. Il va y avoir un amour pour la parole de Dieu. Et par la suite, il va avoir une intimité parce que Dieu vient demeurer chez nous. Le Saint-Esprit vient habiter nos cœurs. Il va avoir cette intimité avec Dieu, n'est-ce pas? Quand on aime Dieu, là, on va vouloir être proche de lui. Et lui, il vient proche de nous. Il dit, si on veut qu'il soit proche, on doit s'approcher premièrement. Approchez-vous de vous, il s'approchera de approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Dans Marc 12, 30, ça dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Vous savez, l'amour, c'est pas simplement une émotion. L'amour, c'est un verbe. Aimer quelqu'un, là, aimer, là, c'est un verbe. C'est quelque chose d'actif. Il y a de l'action derrière l'amour, n'est-ce pas? Quand vous êtes en amour avec quelqu'un, vous allez au restaurant pour manger avec la personne. Vous faites des sorties quelconques. Vous allez jaser, encore une fois, un verbe. Jaser, tout ça. C'est la même chose avec Dieu. On va jaser avec Dieu, on va prier, on va chercher sa face. De toutes les façons possibles. Ça dit, de tout ton cœur. Est-ce que votre cœur appartient pleinement à Dieu aujourd'hui? Ou est-ce que des places, Dieu, moi je te donne 25% de ma vie et l'autre restant, je me réserve cette place-là. Est-ce que c'est vraiment la réalité dans vos vies ici? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Notre âme, c'est nos pensées, notre volonté, nos émotions. Dieu, il demande tout de notre vie, finalement. Nos pensées, notre volonté, nos émotions, l'amour de Dieu, tout ça. C'est beaucoup, finalement. C'est tout ce qu'on est. De toute ta force. Est-ce que vous efforcez à plaire à Dieu dans vos vies? La prière pour vous, c'est-tu un privilège ou un devoir religieux? J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que quand on a fait le 40 heures de prière, cette personne m'a dit, pour moi, ça a changé ma vie. Parce qu'avant, je voyais la prière comme étant quelque chose que je devais faire, mais après, c'est devenu une révélation du privilège de prier avec Dieu. Ça a changé ma vie, ça a changé une dimension de notre vie de prière. La parole de Dieu, lire la parole, sais-tu, la façon dont vous voyez ça, est-ce que c'est la source de votre vie ou est-ce que c'est une responsabilité chrétienne? Aujourd'hui, on s'examine, sais-tu? Une responsabilité que vous avez ou un privilège ce matin. Savez-vous, si c'est une responsabilité, ça doit être très plate de vivre une vie chrétienne de même. C'est vrai. Moi, j'aimerais ça que l'Église de la Victoire, ça soit rempli de gens qui sont excités de servir Dieu. Ils sont excités de lire la parole, sont excités de venir prier et qu'il n'y a pas assez de place où on se rassemble pour prier parce que tout le monde a tellement soif de Dieu. On veut tellement avoir plus de lui parmi nous. On veut tellement plus. On est insatisfait. C'est comme ce couple-là. Ils veulent juste se voir. Hein? C'est comme les yeux dans Grèce de Bin. Hein? On en veut plus de Dieu. Si on arrive tous, il n'y a personne ici d'indifférent ou d'endormi. Si tout le monde ici était vraiment en amour avec Dieu, là, moi, là, je crois que le vent du Saint-Esprit, comme dans la chambre haute, là, ça va, il va souffler ici. On va vivre le max. Si Dieu, il dit, waouh, j'ai un peuple, des gens en amour, je veux les visiter. Hein? Quand moi, je donnais de l'amour à Mathilde, puis j'ai conduit de Granby à Fulford pour lui donner des fleurs, ben, en retour, ça tentait d'être avec moi parce qu'elle voyait que je l'aimais assez pour me déplacer. Elle voyait que j'étais intéressé à elle, n'est-ce pas? Et Dieu, c'est la même chose. Dieu est esprit. Dieu veut nous visiter. Mais moi, je crois que Dieu visite ceux là, qui ont vraiment soif de lui, plus. Moi, je crois que Dieu est partout. Il se promène partout sur la terre. Il est présent partout. Mais il y a des places où il vient d'une façon tangible, où on rentre et puis, waouh, la présence de Dieu est là. On sent tangiblement qu'il est installé dans une place. Moi, je veux vivre ça ici. Je ne sais pas pour vous. Amen. Et même ceux qui sont à la maison, si vous faites de votre maison une place où Dieu peut atterrir, gloire à Dieu. Et pour ceux qui se rassemblent dans d'autres pays pour voir ces enseignements-là, là où vous êtes, ça peut être la même chose dans vos vies. Amen. Moi, je crois que Dieu là, se cherche un peuple, des gens assoiffés. Amen. Dans Apocalypse chapitre 2, on va aller là ensemble. Apocalypse chapitre 2, on va lire les versets 1 à 5. Ici, on voit l'ange de l'Éternel qui dit ici, on va lire ensemble, concernant l'église d'Éphèse. On voit que l'église d'Éphèse, c'est une très bonne église. Parce que vous savez, on peut être contenté et dire, ça va bien pour nous. Il n'y a pas, admettons, un grand vent de mauvaise doctrine qui vient de s'infiltrer. On est correct. Il n'y a pas le grand péché flagrant parmi nous. Ça va bien à ce niveau-là. Et là, la Bible dit, fais attention, celui qui pense qu'il tient debout, de peur qu'il tombe, hein, ça dit ça. On pourrait être contenté et dire, nous autres, ça va bien. Et pourtant, ça peut aller très mal aux yeux de Dieu. Savez-vous pourquoi? On va regarder ça ici. L'église d'Éphèse, comment ça se passait là-bas? Ici, ça dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Donc, ici, on sait que Jésus, ou l'ange ici, dit, je connais tes œuvres. Il parle à l'église. Ton travail et ta persévérance. Est-ce que c'est des bonnes choses? Une église travaillante, une église persévérante? Certainement. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Donc, les méchants qui arrivent dans l'église ne sont pas supportés, sont corrigés. Il n'y a pas de la place pour les méchants dans l'église. Ça, c'est bien. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Donc, ici, on voit ces belles qualités. C'est une église en santé, semblerait-il. De la persévérance. Ils ont souffert à cause du nom de Jésus. Le moment qu'ils se sont fait moquer, ils n'ont pas démissionné de la vie chrétienne. Ils ont continué. Mais verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » C'est peut-être pas pour nous, mais ça l'est peut-être aussi. Je sais pas, moi je connais pas l'état de votre cœur. Mais si le Seigneur m'a donné ces versets-là pour vous dans la nuit, à quelque part c'est pour nous. Est-ce qu'on est en amour avec Jésus comme quand on venait juste d'être sauvé? Le moment où vous êtes sauvé, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, il y a quelque chose qui s'est passé en dedans de vous. Vous étiez super content de le connaître, n'est-ce pas? Il y avait de quoi qui se passait, vous voulez en parler à tout le monde, c'était merveilleux, glorieux. Est-ce que vous êtes pareil aujourd'hui? Ou est-ce que vous êtes endormi un petit peu? C'est quelque chose, on pourrait dire, tout va bien. Écoute, on a une église de gens engagés. Une église engagée comme la nôtre, c'est sûr. À chaque dimanche, on monte, on démonte notre église. On n'a pas des gens endormis spirituellement. On a des gens qui persévèrent dans la foi. On pourrait se réjouir de plein de bonnes choses. Mais pourtant, si Dieu n'a pas notre premier amour là, comme au début, on est encore une place manquante. Et vous allez dire, ben Joël, là, ça s'en vient pas mal exigeant. Est-ce que ça s'en vient pas mal exigeant? Non, Dieu demande juste tout, finalement. C'est tout ce que Dieu demande, c'est tout. Toute votre vie. Et là, quand on donne vraiment toute notre vie à Dieu et tout notre amour, et puis on dit, Seigneur, moi, je trippe sur la vie avec toi, comme au début. Waouh, ça, c'est merveilleux. Et là, moi, je crois, là, on va vivre le maximum. Il n'y a rien qui va empêcher la gloire de Dieu d'envahir cette place. Parce que c'est tous des gens, non seulement persévérants, mais c'est également des gens en amour avec Dieu. Et vous savez, quand vous faites quelque chose pour Dieu, ou vous priez, et ça vient du cœur, ça se ressent. Quand ça vient du cœur, et c'est pas une obligation, c'est 100 fois mieux. Hein? Imaginez si je sortais avec Mathilde au début, puis, ben, je t'emmène au restaurant, ça doit te rendre heureux, ça, là. Hein? Tu dois être contente, là, que je te sors au restaurant. Bon, super. Ça ne serait pas pareil que, hey, j'ai tellement aimé ça être avec toi, je suis tellement content que tu veux sortir avec moi. Mathilde, ça la bénit pas mal plus quand ça vient du cœur que quand c'est par obligation, n'est-ce pas? C'est ça que Dieu cherche. Dieu n'est pas plus fou que nous autres. Et Dieu le sait quand on s'approche de la parole ou quand on s'approche de lui en prière et on le fait pour, OK, il me reste 5 minutes pour faire ma demi-heure. Dieu le sait, lui. Il sait exactement quand on a notre timer. Imaginez si c'était le même avec Mathilde. J'étais au restaurant, j'ai mon petit timer. Et on vient d'écouler une demi-heure. Merci, je m'en vais, bye-bye. Non, mais c'est vrai. Pouvez-vous vous imaginer comment elle serait insultée? Mais c'est la même chose avec Dieu. Amen. Ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin. C'est la fin qui compte. Vous pouvez commencer et courir dans le combat de la foi et tout enthousiasme. Mais Dieu, non seulement est-ce qu'il veut votre amour comme au début, mais il veut que vous conserviez cet amour tous les jours de votre vie, jusqu'à la fin de votre vie. Qu'il n'y ait jamais de temps où j'aime Dieu super beaucoup, puis là, OK, de ce temps-ci, là, je suis en vacances de mon amour. Hein? Ça n'existe pas, ça. On aime toujours Dieu. On aime toujours Dieu. Notre amour pour lui nous pousse à cette intimité avec lui. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27, ça dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Ici, on parle d'une discipline personnelle. Là. On veut avoir cette relation avec Dieu, mais en même temps, notre chair, des fois, faut lui donner des coups de pied. Faut lui dire, sais-tu, là, au lieu de passer 5 heures, 10 heures de TV, d'investir devant la TV, peut-être je vais mettre un DVD et être devant la TV quand même, mais de recevoir un enseignement biblique qui va me bénir, qui va me bâtir. Ah, c'est une question aussi de choix, encore une fois, toujours une question, mais faut s'entretenir dans notre relation avec Dieu. Il faut se ramener toujours les pensées comme quoi on est les amoureux de Dieu. Et ça fait toute une différence dans nos vies. On court de manière à remporter le prix. Amen. Une autre question pour vous. Êtes-vous constant dans cet amour? Êtes-vous constant? 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22, il dit, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, ou ça veut dire maudit. » Il y a juste deux camps dans le monde. Il y a deux camps. Les amoureux de Dieu et ceux qui n'aiment pas Dieu. Ça vient de s'éteindre. Vous pouvez mentionner toutes les religions de la planète, ça ne dérange pas. Il y a les amoureux de Dieu, ceux qui aiment Jésus-Christ et ceux qui n'aiment pas Jésus-Christ. Et ceux qui n'aiment pas Jésus-Christ, la Bible dit qu'ils soient maudits. Le mot maudit, ça veut dire qu'ils s'en vont en enfer. Ça vient de vous déranger. Peut-être qu'il y a des gens à l'Internet, ça vient de vous déranger. Vous enverrez une note à info@evqmedia.com. C'est vrai. On va en déranger du monde, mais Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nul ne vient au Père que par moi. Il y a des gens qui disent, oui, mais Jésus, quand il parlait comme étant un représentant de Dieu. Oui, ça c'est vrai. Mais il dit, en tant que prophète, il y avait plein d'autres prophètes. Et tous ceux qui étaient prophètes pouvaient dire, venez à moi. OK? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et je m'excuse, ça fait pas de sens, ça. Si Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi, ça veut dire que nul ne vient au Père que par moi. C'est pas compliqué. Jésus a dit, je suis le chemin. Si vous suivez Joe Blow comme Dieu, comme j'expliquais à mes petites filles, Floramé, elle me posait des questions, elle t'exposait des choses à l'école, elle me parle de d'autres dieux. J'ai dit, c'est pareil comme si tu prends ta Barbie et tu dis, ça c'est maintenant mon Dieu, c'est Dieu Barbie. J'ai dit, tu peux dire c'est un Dieu, mais ça change pas le fait que Barbie ne t'a pas créé. Amen. Vous pouvez prendre une statue chez vous et la baptiser Dieu du Joe Blow. Mais ça ne deviendra pas plus un Dieu. Votre statut n'a rien créé. Il y a un seul vrai Dieu, c'est Jésus. Et ceux qui sont en amour avec Jésus-Christ vont certainement savoir. Ils vont connaître cet amour. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Éphésiens 6, 24, ça dit, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. La grâce de Dieu, la faveur extrême, la puissance dynamiste de Dieu est réservée pour ceux qui aiment Dieu. On passe à côté, c'est juste à la fin, c'est la fin complètement d'Éphésiens. Et dans Éphésiens chapitre 6, juste à la fin, des fois on finit le livre, on remarque même pas, mais une vérité ici, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a une grâce spéciale pour ceux qui aiment Dieu. Leur cœur bat avec le cœur de Dieu. Un amour inaltérable. Ça veut dire que cet amour ne change jamais. Si vous retrouvez avec des amis, sont tous en train de se saouler et de fumer, et tout d'un coup vous êtes avec eux, et là vu que vous êtes avec eux, vous changez votre comportement et vous ne vivez plus la vie chrétienne parce que vous êtes avec des inconvertis, votre amour vient d'être altéré, vient de changer là, à ce moment-là. Dieu nous appelle à vivre constamment avec Jésus-Christ dans cet amour et d'une façon inchangeable. Jacques 1:8 dit un homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies. Vous voulez avoir de la victoire dans vos vies, vous voulez vivre des percées, vous voulez voir la gloire de Dieu, soyez constant dans votre amour pour Dieu. Constant. Ça veut dire à tous les jours, je vais aimer Dieu de la même façon, passionnément, du matin au soir. Je vais toujours aimer Dieu et je vais toujours mettre Dieu en premier dans ma vie. Il y a des gens qui disent, je comprends pas pourquoi j'ai pas les percées que je voudrais avoir. Êtes-vous constant dans votre amour? Est-ce que Dieu, c'est des fois on le met en premier, puis des fois non? Il y a des gens qui c'est des fois non, savez-vous? La victoire repose dans la constance. La victoire repose dans la constance et dans l'endurance. Vous vous attendez à un miracle de la part de Dieu? Pendant quelque temps, vous croyez, vous avez la foi, continuez à croire jusqu'à temps que vous allez le vivre. Si vous démissionnez avant, si vous déterrez votre semence, peu importe l'affaire, vous vivrez pas la victoire et ça ne sera pas la faute de Dieu. Dieu s'attend à la constance dans nos vies. Et quand on marche constamment avec lui, et peut-être vous vous dites, ouais, Joël, moi, j'ai pas été dans cette marche d'amour constante. Mais savez-vous, aujourd'hui, vous pouvez décider de donner votre cœur à Dieu entièrement. Et aujourd'hui, vous pouvez faire le changement et dire, moi, je ne vivrai pas une vie chrétienne, un pied dans le monde, un pied dans l'Église, mais je vais marcher avec Dieu à tous les niveaux et je prends la décision aujourd'hui. Et j'espère que je vous dis aujourd'hui, ça ne vous donne pas de condamnation, parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, cette parole, au lieu de nous donner une condamnation, on devrait la prendre pour nous stimuler à aimer plus Dieu, parce que c'est ça que Dieu veut. Dieu recherche plus de son Église. Et si Dieu m'a donné un rêve ainsi, c'est parce que Dieu veut que cette Église l'aime encore plus. Est-ce que c'est possible qu'on l'aime plus? Oui. Et l'amour, c'est pas la performance. Des fois, les gens disent, si je travaille plus pour Dieu, si je performe plus, là, j'aime plus Dieu. C'est pas vrai. Vous pouvez travailler et ne pas aimer Dieu. Il y en a plein de gens qui travaillent pour Dieu, qui sont dans des fausses religions, puis ça veut rien dire, puis au bout de leur vie, ça va rien donner. C'est pas une question de performance, c'est une question de cœur, d'aimer Dieu avec toute notre être. Êtes-vous conscient à cet amour? Dans Jacques 4:8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. hommes irrésolus. Ici, c'est des hommes avec le cœur partagé. Mais ça, ce n'est pas nous aujourd'hui. Ce n'est pas nous. Amen. Et dans Jean 17, 17, ça dit « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » Peu importe les épreuves dans lesquelles on se trouve, notre foi doit toujours demeurer dans la parole de Dieu. Et une des choses, s'il y a une chose que vous apprenez ce matin, qui est vraiment, vraiment importante, là, c'est que la vérité de la parole de Dieu ne change jamais. Et même si nos circonstances ne semblent pas être selon la vérité de la parole de Dieu, Dieu a toujours raison quand même. Il y a des gens qui vont dire, ben ça marche pas, je l'ai essayé, ça n'a pas marché dans ma vie, je démissionne. Mais Dieu, s'il dit par ses meurtrisseurs, vous avez été guéri, c'est pas parce que vous n'êtes pas encore guéri que ça marche pas ou que Dieu veut pas que vous soyez guéri. Voyez-vous, c'est pas parce qu'on n'a pas la manifestation tout de suite dans nos vies que Dieu dit un mensonge. Mais il faut toujours croire, Dieu, là, sa parole, c'est la vérité. Et moi, là, je ne vais pas interpréter la vérité de la parole de Dieu à partir de mon expérience personnelle. C'est souvent pour ça, des fois, les gens, ils démissionnent de leur marche chrétienne ou sont plus en amour avec Dieu parce qu'ils se sont attendus à Dieu pour des miracles dans leur vie et ils n'ont pas vécu. Puis là, ils disent, oublie ça, ça ne marche pas. Mais Dieu, sa parole est toujours la vérité. C'est toujours vrai que vous voyez en opération présentement ou non. Mais si vous marchez fidèlement, de façon constante avec lui, vous allez voir que Dieu, sa parole est vraie. Amen. Êtes-vous endurant dans cet amour? Jésus, lui, il a enduré jusqu'à la croix. Dans Jacques, chapitre 1, verset 2 à 4, ça dit, « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. » J'ai vu cette semaine la prophétesse Cindy Jacobs. Elle a eu un dégât d'eau dans ses bureaux de son ministère. Et elle a fait une vidéo pour l'Internet. Et puis elle dit pas, « Bien aujourd'hui, je viens de renier ma foi en Jésus-Christ. On a eu un dégât d'eau. Et puis, finalement, je crois plus là-dedans. Je crois plus en Dieu. Dieu aurait pu m'épargner telle affaire. Elle aurait pu maudire Dieu comme Job. Hein? Job l'a pas fait, mais comme sa femme disait de faire. Hein? Il y aurait eu plein d'opportunités pour se frustrer. Mais si... Ça dit, quand vous passez toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Mais pourquoi? Car, vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Remarquez une chose, l'épreuve dans le monde chrétien, c'est souvent pas l'épreuve biblique. Eux, ils vont dire, l'épreuve, c'est que, bon, faut que tu sois malade comme un chien, et là, Dieu t'éprouve au max. Mais ça, c'est pas l'épreuve. On parle pas ici de mettre de côté notre forfait divin. Si on mélange les affaires, on perd, on va se laisser dominer par Satan. Dieu nous appelle à discerner les choses. Mais ici, là, l'épreuve, bon, avoir un dégât d'eau, c'est pas le fun. Mais elle, dans son vidéo, elle dit, je compte toute cette chose-là. Elle le dit en anglais, I count myself glad, OK? Considérez-vous comme heureux. I count it all joy. Elle disait. Car vous savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance, mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien. Alors même si vous passez à travers des épreuves, vous allez devenir mature là-dedans et vous devenez des hommes, comme ça dit des adultes, des hommes matures. Et quand, vous savez, quelqu'un d'autre vit une épreuve, vous allez pouvoir dire, moi j'ai passé par là, Dieu s'est montré fidèle, inquiète-toi pas, on va prier pour toi, on va t'aider là-dedans. Et finalement, vous êtes devenu mature et vous n'avez pas abandonné le Seigneur parce que vous avez vécu quelque chose de difficile. Vous pouvez vivre des choses difficiles et dire, moi j'abandonne tout. Mais non, laissez-vous façonner et Dieu va faire en sorte que vous allez être mature, puis vous allez grandir et vous allez aider d'autres personnes. Et en plus, quand vous passez l'épreuve, vous avez des promesses. Dans Jean 16, verset 33, ça dit, « Vous aurez des tribulations. » C'est une promesse de Dieu. Combien de personnes aiment cette promesse? « Vous aurez des tribulations. » Jésus l'a dit, « Vous aurez des tribulations. » Alléluia! Je me promène dans la maison, je vais avoir des tribulations. Est-ce qu'on prend cette promesse-là d'habitude? Ce n'est pas une promesse qu'on tripe dessus, hein, habituellement. Mais, ça dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Oh, phew. Heureusement, Jésus est victorieux même dans l'épreuve. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que je peux partager quelque chose, Jean? Qu'est-ce qui s'est passé à l'ordinateur? L'autre soir, on est en train de souper chez Jean et Martine. et parlez-en pas à son fils, mais il était malade et finalement il a vomi sur l'ordinateur. Quelle épreuve! C'est très plate parce que ça coûte beaucoup d'argent, un ordinateur. Il a vomi sur son laptop et puis finalement, il a été baptisé dans le vomi. Et par la suite, elle a pris son ordinateur, laptop, et elle a rincé, elle a donné une douche à l'eau. Finalement, elle a lavé son ordinateur à l'eau. Habituellement, un ordinateur comme ça serait mort, n'est-ce pas? Mais on a prié, on a tous prié. Ma femme est allée imposer les mains. Et finalement, l'ordinateur est ressuscité d'entre les morts. Et gloire à Dieu. Mais c'est une épreuve, c'est pas trippant. On pourrait dire, mais pourquoi Dieu a permis? Il aurait pu vomir un pied à côté. Ça, hein? On aurait pu. C'est dégueulasse, ça pue. Pourquoi t'as permis ça? Les pourquoi? Laissez-les souvent à Dieu. Laissez-les à Dieu. En son temps, Dieu va vous montrer pourquoi. Des fois, c'est pas tout de suite qu'on comprend. Mais là, au moins, même s'il comprenait pas tout de suite, plus tard, on comprend. Et heureusement, Jésus a vaincu le monde. Sauf que dans une épreuve comme ça, on dit, mais gloire à Dieu, je comprends pas, mais je sais que Jésus a vaincu le monde. Dans 1 Jean 5, 4, ça dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, si je garde ma foi en Dieu, je marche dans la foi constamment. Il y a quelqu'un que je connais qui était très malade, et les gens ils ont demandé la question, mais comment peux-tu croire encore en Dieu parce que tu as vécu telle épreuve? Comment ça tu peux oser croire encore en Dieu? Moi, j'ai dit à cette personne, sais-tu le fait que tu as gardé ta foi en Dieu malgré l'affaire, malgré l'épreuve, ça démontre que tu étais dans la victoire. Parce que ta foi a demeuré stable en Jésus-Christ, malgré l'épreuve. Être dans la victoire, c'est pas l'absence des épreuves. Être dans la victoire, c'est de passer à travers les épreuves avec notre foi intacte en Jésus-Christ. Ça veut dire on est victorieux. Ça veut pas dire qu'on marche toujours dans des jardins de tulipes et que ça sent toujours les roses. Ça serait un miracle, des tulipes et des roses. Mais tout ça pour dire, c'est vrai, la vraie victoire, là, c'est de saisir les promesses de Dieu. Et même quand ça va mal, on y croit quand même et on sort jusqu'au bout. Même si on passe à travers le désert, on sait au bout, il y a la terre promise. Mais il y a des chrétiens qui veulent s'installer. Ils veulent pas seulement avoir des tentes dans le désert. Ils veulent s'édifier. Ils veulent s'établir plutôt. Ils veulent s'établir une maison. Ils vont se faire super grand. Puis là, toute leur vie, eux, ils vont vivre dans le désert. Non, Dieu, on voit dans la parole de Dieu, le peuple d'Égypte ont sorti, n'est-ce pas? C'est sûr que s'ils murmuraient, ça pouvait rester longtemps. Ils pouvaient rester longtemps dans le désert. Mais si on veut marcher avec Dieu et garder notre foi, notre amour en Jésus, bien, on va finir par s'en sortir, n'est-ce pas? Amen. Êtes-vous endurant dans cet amour? Hébreux 12, verset 1 à 3, ça dit, c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à perfection parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservé. Vous savez, si vous gardez vos yeux fixés sur Jésus et vous gardez en même temps vos yeux fixés sur la joie qui vous attend, vous allez pouvoir passer à travers n'importe quoi. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, finalement, il a vécu de quoi? Il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Le diable, l'ennemi de vos âmes, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est vous décourager. Il veut vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Il veut vous empêcher de garder vos yeux fixés sur Jésus-Christ. S'il peut enlever vos yeux et votre focus sur Jésus et vous mettre vos yeux sur tous les problèmes, il vient de gagner. Là, la victoire est à lui. Mais heureusement, quand on garde nos yeux fixés sur Jésus, on continue et on va de l'avant. En terminant, un amour radical. Vous connaissez l'histoire dans Jean 21, 15 à 19. Jésus demanda à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? »« Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Puis lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Et peut-être aujourd'hui, Dieu vous pose cette question-là. « M'aimes-tu vraiment? » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. » Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir ainsi la gloire de Dieu. Puis Jésus lui dit, « Suis-moi. » Est-ce que votre amour est à cette place radicale où vous êtes prêt même à mourir pour Jésus-Christ? Ou est-ce que c'est un amour quand ça me convient, j'ai le feeling? Ou c'est vraiment un amour d'abandon où vous êtes vraiment abandonné à Jésus-Christ? Et aujourd'hui, pendant que tout le monde penche leur tête, j'aimerais ça demander la question. Pendant que tout le monde penche leur tête, on ferme nos yeux. Aujourd'hui, le Seigneur vous demande, est-ce que vous m'aimez vraiment? Est-ce que vous m'aimez vraiment? Et si dans le passé, ce n'était pas votre cas, mais aujourd'hui, vous voulez vraiment aimer Dieu de tout votre cœur, j'aimerais ça simplement vous demander de lever la main. Et dire, Seigneur, aujourd'hui, je m'engage. Amen. Amen. Je m'engage, Seigneur. Je veux t'aimer pleinement. Et aujourd'hui, même ceux à la maison, aujourd'hui, je veux prier pour vous. On va prier ensemble. Seigneur, on veut t'aimer pleinement avec tout notre cœur aujourd'hui. Seigneur, on te donne notre vie. Sois vraiment le Seigneur de nos vies aujourd'hui. On veut t'aimer, Seigneur, avec un amour radical. Et Seigneur Dieu, je prie que tu puisses recevoir le don de notre amour, que cette Église, Seigneur Jésus, puisse t'offrir leur amour d'une façon radicale, qu'on puisse te louer, t'adorer, Seigneur Dieu, avec un amour qui vient du fond de notre cœur, Seigneur Jésus. Et Seigneur, on t'accueille dans cette Église, on accueille ta présence, Seigneur, on accueille tout ce que tu veux pour nous, Seigneur Dieu. On s'abandonne aujourd'hui à toi et on te dit, on t'aime. Amen. Et aujourd'hui, si vous avez dit, moi, je veux aimer Jésus avec ma vie, gloire à Dieu. Vous savez, juste ça, là, c'est assez pour devenir un enfant de Dieu. Vous avez dit, Seigneur, je veux t'aimer. Et là, ce que Dieu veut faire dans votre vie, c'est vous aimer et il vous aime déjà et il veut se manifester dans vos vies comme étant un Dieu qui vous aime, un Dieu qui va prendre soin de vous. Amen. Nous avons un grand privilège. Nous sommes l'épouse de Christ. Et nous devons savourer le privilège qu'on a d'être un enfant de Dieu. Et mon dernier verset ce matin, dans Psaume 33, verset 4, ça dit, « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Malgré les épreuves, malgré les choses qu'on peut vivre, tu relèves ma tête. Tu es mon bouclier, tu es ma source, Seigneur Jésus. Et je vais marcher avec toi tous les jours de ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez reçu quelque chose ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Merci. Sois loué, Seigneur. Sois loué. Pendant l'équipe de la louange, vous avancez. On va louer Seigneur ce matin.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.